Bonjour à tous, bienvenue dans Au-delà du sport, votre rendez-vous mensuel pour explorer tout ce que le sport nous fait vivre. Une fois par mois, on prendra le temps d'aller plus loin que les scores et les médailles pour voir ce que le sport raconte de nous, de nos cultures et parfois de nos défauts. Il sera abordé le courage de certains sportifs, la transmission d'une passion et des exploits qui nous ont marqués en tant que fans absolus. Aujourd'hui, je vais mettre en lumière les scandales sportifs qui ont marqué les Jeux Olympiques et le monde du sport. Les Jeux Olympiques, ce sont bien plus que des compétitions sportives. C'est censé être le sommet ultime du sport. Ce moment rare et précieux où les meilleurs athlètes de la planète se donnent rendez-vous pour mesurer leurs forces, repousser leurs limites et écrire les histoires sous les yeux du monde entier. On imagine la pureté de l'effort, la beauté de la performance, la puissance du corps humain au service de l'excellence. On pense aux records qui tombent, aux émotions qui jaillissent, aux sourires radieux sur les podiums, aux rêves qui se réalisent. Mais derrière les médailles scintillantes, derrière les applaudissements et les photographies parfaites, se cache parfois une réalité plus complexe et beaucoup moins noble. Parce que le sport de haut niveau, aussi impressionnant qu'il soit, n'est jamais totalement à l'abri des dérives humaines. Il y a un autre visage des jeux, un visage fait de stratégies clandestines, de tricheries sophistiquées, de dopage soigneusement organisé, et parfois même de corruption au plus haut niveau. Ces histoires ne sont pas des rumeurs, ni des exagérations journalistiques. Ce sont des faits documentés, des événements qui ont marqué l'histoire olympique, et qui ont ébranlé l'image d'intégrité et de fair-play que l'on associe naturellement à cette compétition. Aujourd'hui, nous allons nous immerger dans ces zones d'ombre. Je vous propose de plonger dans trois des scandales les plus retentissants et emblématiques que les Jeux Olympiques n'aient jamais connus. Trois histoires vraies, trois moments où l'idéal olympique, celui qu'on imagine si pur et si immaculé, s'est fissuré sous le poids de la tricherie, de l'ambition démesurée et parfois de l'avidité. Des affaires qui ont pu bouleverser la perception du sport, choquer le public, et mis en lumière que même dans l'univers brillant des jeux, les règles ne sont pas toujours respectées. Le premier scandale dont je vais vous parler secoue le monde du sport. Le dopage d'État russe aux Jeux Olympiques de Sochi en 2014. On est en février 2014. Les Jeux Olympiques d'hiver battent leur plein dans la ville russe de Sochi. Et tout semble parfaitement orchestré. La Russie est fière, puissante et surtout, elle gagne. Elle gagne beaucoup de médailles qui s'accumulent. Les performances impressionnent et les athlètes russes semblent intouchables. Mais derrière cette vitrine parfaite, quelque chose cloche. Au début, ce ne sont que des murmures. Des journalistes qui s'étonnent, des experts qui froncent les sourcils, des performances jugées presque trop belles pour être vraies. Mais personne ne peut encore imaginer l'ampleur de ce qui se passe réellement dans les coulisses. Car ce que le monde ignore à ce moment-là, c'est qu'un système d'une précision extrême est en place. Un système pensé, organisé et exécuté avec une efficacité presque militaire. Un système de dopage soutenu par un État entier. Au cœur de ce dispositif, il y a un lieu clé, le laboratoire antidopage officiel des Jeux. Un endroit censé garantir l'équité, la transparence et la justice sportive. Mais dans ce cas précis, le laboratoire devient l'épicentre de la manipulation. La nuit, lorsque les compétitions s'arrêtent et que les spectateurs rentrent chez eux, une autre activité commence. Discrètement, silencieusement, des hommes interviennent dans le laboratoire. Ils manipulent les échantillons d'urine des athlètes, des échantillons censés être inviolables. Normalement, ces flacons sont conçus pour ne jamais être ouverts sans laisser de traces. Mais ici, ils le sont, grâce à des techniques spécifiques maîtrisées dans le plus grand des secrets. Les échantillons contaminés sont remplacés par des échantillons propres, et le tour est joué. Le lendemain, les tests reviennent négatifs. Les athlètes sont déclarés propres, et les médailles restent. Ce système ne concerne pas que quelques individus isolés. Il s'agit d'un programme coordonné, impliquant plusieurs niveaux d'organisation. Des entraîneurs, des médecins, des responsables sportifs, et même des services de sécurité. C'est ce qui rend ce scandale si particulier. On ne parle plus ici d'une triche individuelle. On parle d'un mécanisme global, d'une stratégie. Mais comme souvent dans ce type d'affaires, tout finit par basculer à cause d'une personne. Un homme qui connaît tout, qui a vu de l'intérieur comment le système fonctionne et qui décide un jour de parler. Cet homme, c'est Grigory Rodchenkov. Directeur du laboratoire antidopage, il est au centre du dispositif. Pendant des années, il participe activement au système. Il coordonne, il organise, il exécute. Puis, pour des raisons encore débattues aujourd'hui, il change de camp. Il quitte la Russie, il s'exile et surtout il témoigne. Ses révélations sont explosives. Il décrit en détail les manipulations, les méthodes, les noms, les procédures. Il explique comment les échantillons étaient échangés, comment les contrôles étaient contournés et comment tout cela était rendu possible. Très vite, les autorités internationales s'en mêlent. Une enquête est lancée. Les preuves s'accumulent et peu à peu, le puzzle se reconstitue. Le monde découvre alors l'un des plus grands scandales de l'histoire du sport. Les conséquences sont immédiates. Des dizaines d'athlètes sont suspendus. Plusieurs médailles sont retirées et la crédibilité du sport russe est profondément atteinte. Mais au-delà des sanctions individuelles, c'est l'ensemble d'une nation qui est mise en cause. La Russie est suspendue des compétitions internationales. Puis, dans un compromis assez controversé, certains athlètes sont autorisés à participer, mais sous drapeau neutre. Un symbole fort. Une manière de dire, vous pouvez concourir, mais vous ne représentez plus votre pays. Ce scandale marque un tournant, parce qu'il remet en question l'idée même d'équité dans le sport. Il montre que même au plus haut niveau, même dans les compétitions les plus surveillées, la triche peut exister. Mais pas à petite échelle, il soulève aussi une question dérangeante. Si un système aussi complexe a pu fonctionner pendant des années et sans être détecté, combien d'autres existent encore aujourd'hui? Combien d'athlètes bénéficient de systèmes similaires et n'ont pas encore été exposés? Et surtout, peut-on encore totalement croire aux performances que l'on voit? Car au fond, c'est vraiment ça l'impact de ce scandale. Ce n'est pas qu'une affaire de dopage, c'est une crise de confiance envers les athlètes des Jeux Olympiques. Le deuxième scandale que je vais aborder montre que parfois, même le sport le plus élégant et précis peut être entaché d'injustice. L'affaire du patinage artistique aux Jeux Olympiques de Salt Lake City en 2002. On est en février 2002 aux Jeux Olympiques d'hiver de Salt Lake City. Dans la patinoire, l'atmosphère est presque irréelle. La lumière se reflète sur la glace, le silence est total et le public attend le moment décisif. La finale du patinage artistique en couple. Deux équipes dominent la compétition. D'un côté, les Canadiens, élégants, précis et presque parfaits. De l'autre, les Russes, expérimentés, impressionnants, avec une réputation déjà solidement installée dans la discipline. Les Canadiens entrent en scène. Leur programme est fluide, maîtrisé, sans erreur visible. Chaque mouvement est synchronisé. Chaque portée est propre. Chaque réception est stable. À la fin, la salle explose. Le public est debout. Beaucoup pensent assister à une performance qui mérite l'or. Puis viennent les Russes. Leur passage est solide, spectaculaire. Mais certains petits détails semblent moins nets. Quelques approximations, rien de dramatique. Mais suffisamment pour que le doute s'installe chez les observateurs les plus attentifs. D'après eux, le Canada doit gagner. Et pourtant, au moment des résultats, le verdict tombe. Les Russes sont déclarés vainqueurs. Dans la salle, l'ambiance change immédiatement. Les applaudissements sont hésitants, les regards se croisent. Les commentateurs eux-mêmes peinent à comprendre. Très vite, une impression étrange s'installe. Quelque chose ne va pas. Les heures passent et les réactions se multiplient. L'expert analyse les performances. Les journalistes posent des questions. Le public exprime son incompréhension. Pourquoi les Canadiens n'ont-ils pas gagné? Puis la situation bascule. Une information commence à circuler. D'abord timidement, puis de plus en plus clairement. Une juge aurait été influencée. Une pression aurait été exercée sur elle pour orienter son vote vers la Russie. Cette juge, c'est une Française. Et elle finira par reconnaître qu'elle n'a pas voté de manière totalement libre. Elle explique avoir subi des pressions venant de responsables de sa fédération. Mais ce n'est pas tout. En creusant davantage, les enquêteurs découvrent un système plus large. Un système d'arrangement entre juges de différentes nations. Le principe est simple. Casque cynique. Je me donne ta voix ici, je te donne la mienne ailleurs. Autrement dit, les résultats ne sont pas uniquement basés sur la performance du jour, ils peuvent être influencés par des accords passés en coulisses. C'est une révélation choquante. En effet, lors de cette finale, la Russie, la Chine, la Pologne et l'Ukraine, qui sont plutôt des pays alliés des Russes, avaient mis ce coup devant. Tandis que les États-Unis, le Canada, l'Allemagne et le Japon avaient désigné les Canadiens champions olympiques. Selon les alliances passées, on aurait pu croire que la juge française, qui avait le vote décisif, aurait voté les Canadiens. Mais ce n'est pas ce qui s'est passé. Le scandale prend alors une ampleur mondiale. Les médias s'en emparent, le public s'indigne, les instances olympiques sont obligées de réagir. Une enquête officielle est lancée, les témoignages sont recueillis, les pressions sont confirmées, le doute n'est plus permis. Face à cette situation exceptionnelle, la décision exceptionnelle est aussi prise. Pour la première fois dans l'histoire des Jeux olympiques, deux médailles d'or sont attribuées dans cette épreuve, une pour les Russes et une pour les Canadiens. C'est une décision forte, mais aussi révélatrice. Elle montre à quel point le système a été mis en défaut. Plutôt que de trancher définitivement, les autorités choisissent de reconnaître l'injustice sans totalement corriger le résultat initial. Mais les conséquences ne s'arrêtent pas là. Ce scandale entraîne une remise en question profonde du système de notation en patinage artistique. Les règles sont alors modifiées. Les méthodes de jugement sont revues et l'objectif est clair, celui de limiter au maximum les possibilités de manipulation. Pourtant, malgré ces changements, une trace reste, surtout dans l'esprit du public. Parce qu'à partir de ce moment-là, une question persiste. Quand on regarde une performance, est-ce qu'on voit vraiment le meilleur gagner? Ou parce qu'il y a quelque part une part d'arrangement, de stratégie et même de politique. Ce scandale est différent des autres. Il n'y a pas de dopage. Les athlètes n'ont pas triché directement. Ils ont donné le meilleur d'eux-mêmes sur la glace devant des millions de spectateurs, mais le résultat est quand même influencé. C'est ce qui le rend particulièrement troublant, parce qu'il remet en cause la notion même de mérite. Il montre que même une performance parfaite peut ne pas suffire, et que parfois la décision finale ne se joue pas uniquement sur le terrain ou sur la glace. Ce jour-là, le public a compris quelque chose d'important. Le sport, même au plus haut niveau, n'est pas toujours aussi pur que l'on voudrait le croire. Et même dans un moment de grâce, même dans une performance presque parfaite, l'injustice peut exister. Enfin, le dernier scandale se passe en septembre 2000, lors des Jeux Olympiques de Sydney. L'attention du monde entier se concentrait sur une athlète américaine, au talent incontestable et à l'aura exceptionnelle, Marion Jones. À cette époque, elle représentait l'image même de l'excellence sportive, de la perfection technique et de la puissance physique, capable de captiver un public avec chacune de ses courses, chacune de ses foulées. Elle incarnait à la fois la rapidité, l'élégance et la maîtrise absolue de son art. Les spectateurs et les médias du monde entier étaient fascinés par ses performances. Il semblait défier les limites du corps humain. Son objectif affiché, presque irréaliste, était de remporter 5 médailles aux mêmes Jeux olympiques, une performance que très peu d'athlètes dans l'histoire avaient même envisagée. À chaque course, qu'il s'agisse des 100 mètres, des 200 mètres ou des relais, elle dominait ses adversaires avec une aisance et une régularité qui semblaient naturelles, comme si le succès lui appartenait de droit. Le public était émerveillé et le commentateur louait sans réserve ses capacités extraordinaires, son charisme et sa capacité à exceller sous la pression la plus intense. À la fin des Jeux, Marion Jones avait effectivement atteint son objectif, 3 médailles d'or et 2 médailles de bronze, un exploit qui la propulsait au sommet de la gloire sportive et faisait d'elle d'une figure incontournable du monde de l'athlétisme. Mais derrière ce succès éclatant, une ombre planait depuis plusieurs années. Une ombre liée au dopage et à la manipulation du corps, à des fins de performance. À l'époque, le laboratoire américain Balco, commençait à attirer l'attention des enquêteurs et des journalistes spécialisés, car il semblait fournir à plusieurs athlètes de haut niveau des substances dopantes sophistiquées, supposées être indétectables lors des contrôles antidopage classiques. Ces substances, soigneusement élaborées et distribuées, permettaient à certains athlètes d'améliorer leur endurance, leur puissance musculaire et leur récupération, tout en échappant à l'œil des autorités. Au fil des mois, les rumeurs se multipliaient et le nom de Marion Jones commençait à émerger dans les enquêtes. Mais la sprinteuse, avec l'assurance et la conviction d'une championne invulnérable, niait catégoriquement toute implication. Elle déclarait à plusieurs reprises dans les médias et aux enquêteurs qu'elle n'avait jamais utilisé de produits interdits, que ses performances étaient entièrement le fruit de son travail acharné, de sa discipline et de son talent naturel. Pendant plusieurs années, ces dénégations sont crues et le public continue de l'admirer comme l'incarnation d'une athlète propre et exemplaire. Mais l'étau se resserre progressivement et les preuves commencent à s'accumuler. D'anciens coéquipiers, des proches et des collaborateurs du laboratoire Balco portent des témoignages qui mettent en lumière un système organisé, systémique de dopage au plus haut niveau de la compétition. Les enquêtes révèlent des échanges de produits dopants, des protocoles pour contourner les contrôles et surtout une coordination entre plusieurs athlètes de renommée internationale qui profitent de ce système pour maximiser leurs performances sans être détectés. Au fil des mois, le réseau se dessine avec une clarté inquiétante et Marion Jones apparaît comme une pièce maîtresse de ce mécanisme de dopage sophistiqué. Les médias commencent à titrer sur la reine du sprint dopée et les regards admiratifs du public se teintent de suspicion. Finalement, en 2007, après des années de suspicion, Marion Jones reconnaît officiellement avoir utilisé des substances interdites pendant sa carrière, admettant avoir menti aux enquêteurs et au public pendant de longues années. Cette confession bouleverse non seulement le monde de l'athlétisme, mais aussi l'ensemble de la communauté olympique. Ses 5 médailles, symbole de son incroyable performance à Sydney, sont retirées. Et elle est condamnée à 6 mois de prison, parjure et fraude. La chute est brutale. En l'espace de quelques instants, une légende vivante devient un exemple de trahison et de manipulation. Un rappel cruel. Même les plus admirés peuvent être pris dans les filets de la triche et de la tromperie. Ce scandale a des répercussions profondes et durables sur la perception du sport de haut niveau. Il met en lumière les pressions extrêmes que subissent les athlètes pour rester au sommet, les sacrifices physiques et moraux nécessaires, et le déséquilibre entre ambition personnelle et intégrité sportive. Il montre que la tentation de tricher peut toucher tous les athlètes, même ceux qui semblent exemplaires. Et que le système de contrôle antidopage à l'époque n'était pas toujours suffisant pour détecter et prévenir des pratiques sophistiquées. L'histoire de Marion Jones illustre alors la fragilité de l'image de perfection que le public attribue aux champions. On rappelle que la gloire, quand elle est obtenue par la manipulation, peut se transformer très rapidement en humiliation et en perte de réputation. Mais au-delà de la dimension individuelle, cette affaire souligne également l'importance des enquêtes, de la transparence et de la grande vigilance dans le sport. Elle a entraîné une réforme des pratiques de contrôle antidopage et un renforcement des sanctions contre les athlètes et les organisations impliquées dans la triche. Elle rappelle par-dessus tout que la confiance du public, une fois trahie, est très difficile à restaurer. Les spectateurs, qui avaient célébré chaque victoire de Marion Jones avec admiration, se retrouvent confrontés à la douloureuse réalité que leurs héros peuvent mentir et que les performances les plus spectaculaires ne sont pas toujours le fruit du seul travail et du talent. Ainsi, le scandale de Marion Jones reste une leçon majeure pour le sport mondial, un avertissement que même les figures les plus emblématiques sont vulnérables à la tentation de la triche et que la quête de la performance maximale, quand elle est déconnectée de l'éthique, peut entraîner la destruction de carrière, de rêves et même de légendes. Son histoire, fascinante et tragique à la fois, continue d'être évoquée dans les discussions sur l'intégrité des Jeux Olympiques et sur les limites que les athlètes et les institutions peuvent imposer pour préserver l'esprit véritable du sport.
La 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 la.
Merci d'avoir été avec nous pour cet épisode. On se retrouve le mois prochain pour une nouvelle aventure sportive entre émotions, héros et moments de légende, là où le sport français et mondial nous réunit tous. C'était Valentine dans Au-delà du sport.